La mission de Christ pour le monde, par Adrien Nebens. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? La venue de Jésus-Christ sur cette terre fut un acte d'amour, de bonté et de miséricorde qui dépasse l'entendement. Le fait qu'il soit descendu de sa position exaltée pour devenir un être humain nous remplit d'étonnement. Dire que le Fils de Dieu, la majesté du ciel, s'est humilié pour naître dans une étable comme un enfant vulnérable. L'effet de ce seul acte devrait soumettre notre ambition et notre orgueil humain naturel. La question qui se pose est : pourquoi est-il venu ? Quel était le message clé qu'il est venu délivrer ? La prière de Jésus, la nuit avant sa crucifixion, nous dit clairement son but et sa mission. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ici, Jésus nous dit l'œuvre que le Père lui a donnée à faire. Cette œuvre était de glorifier le Père. Qu'est-ce que la gloire du Père? Moïse posa cette question et Dieu révéla sa gloire à Moïse. Exode 33, verset 18. Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire. Exode 34, verset 7 à 8. Dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Ce que Dieu révéla était son caractère, miséricordieux, compatissant, lent à la colère ou patient, et plein de bonté et de vérité. Combien il est précieux de connaître ces choses au sujet de notre Père. C'est pourquoi nous voyons que Jésus révéla le caractère de son Père. Il nous montra sa miséricorde, sa grâce, sa patience et sa véritable bonté et vérité. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération? Considérons premièrement une affirmation très similaire que l'on trouve dans les 10 commandements. Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miséricorde. Ceux qui se détournent du vrai Dieu et choisissent un Dieu de vengeance et de rétribution finiront par expérimenter ce qu'ils croient à tort. Ce n'est pas parce que Dieu leur fait du mal, mais parce que ceux qui se détournent de Dieu s'éloignent de sa protection et se placeront eux-mêmes dans les mains du destructeur qui est Satan. Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. 1 Corinthiens 10, versets 9 et 10. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Review and Herald, 26 novembre 1895. Satan est le destructeur, mais Christ est celui qui restaure. Dieu envoie ses anges pour veiller sur ses enfants et les protéger. Ceux qui rejettent le vrai Dieu, après des années d'appel et de supplication par l'Esprit de Dieu, sont finalement livrés à eux-mêmes selon leurs propres décisions. C'est ce qui arriva à Israël lors de la destruction de Jérusalem, après que la nation eut rejeté le Messie. Matthieu 23, versets 37 et 38. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Les jugements de Dieu ne viennent pas directement de lui. Dieu n'a pas lui-même détruit la nation d'Israël. Il permit à la nation d'Israël d'être détruite par le destructeur. Nous lisons dans « Tragédie des siècles », page 36. En mettant le comble à leur endurcissement, les Juifs avaient forgé leur propre chaîne. La destruction de leur nation et tous les maux qui suivirent leur dispersion ne furent que le fruit de leurs œuvres. Le prophète l'avait dit, « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, car tu es tombé par ton iniquité. » Osée 13, verset 9 et 14, verset 1. Maints auteurs citent les souffrances du peuple juif comme l'accomplissement d'un décret divin. Par cette erreur, le grand séducteur s'efforce de masquer son œuvre. C'est à cause de leur mépris obstiné de la miséricorde et de l'amour divin que les Juifs s'étaient aliénés la protection du ciel et que Satan avait pu les dominer. Les cruautés inouïes dont ils se rendirent coupables durant le siège de Jérusalem démontrent la façon dont Satan traite ceux qui se soumettent à lui. C'est ce que veut dire Dieu lorsqu'il visite les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Le mot « visiter » en hébreu signifie « superviser », « prendre soin », « charger », « rappeler à la mémoire ». Notre Père du ciel permet aux décisions de chaque personne de porter ses fruits. Il ne force pas les gens à changer d'idée. Il supervise le processus de chaque personne recevant le fruit de ses propres décisions. La Bible l'exprime ainsi. Dans Galates 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Il sera permis à la semence spirituelle plantée par une personne de porter ses fruits soit pour la vie éternelle, soit pour la mort. Dieu supervise le processus permettant à chaque personne de récolter le fruit de ses décisions. C'est la seule chose juste à faire. Bien que ça cause toujours une souffrance terrible à notre Père de permettre cela, il le fait parce qu'il est patient et que la liberté de choisir est préservée pour tous. Nous lisons dans 14 Manuscript Release, paragraphe 3, Il m'a été montré que les jugements de Dieu ne viendraient pas directement du Seigneur vers eux, mais que ça se passerait ainsi. Il se place au-delà de sa protection, il avertit, corrige, reprend et montre le seul chemin vers la sécurité. Alors, si ceux qui ont été les objets de ses soins particuliers suivent leur propre voie indépendamment de l'Esprit de Dieu, si, après des avertissements répétés, ils choisissent leur propre chemin, alors il ne charge pas ses anges d'empêcher les attaques déterminées de Satan contre eux. Certains argumentent que cette affirmation d'Ellen White n'est pas un argument général, mais ne fait que se référer à un événement spécifique juste après l'époque où elle écrivit cela. Deux paragraphes plus haut, elle écrit. Toujours dans 14 Manuscript Releases, paragraphes 2 et 3, il m'a été montré que le temps était proche ou concernant ceux que Dieu avait avertis et réprimandés et auxquels il avait donné une grande lumière, mais qui ne voulaient pas corriger leur voie et suivre la lumière, la protection céleste qui les avait préservés de la puissance cruelle de Satan leur serait retirée. Le Seigneur les laisserait certainement à eux-mêmes pour suivre le jugement et les conseils de leur propre sagesse. Ils seraient tout simplement livrés à eux-mêmes, et la protection de Dieu leur serait retirée. Ils ne seraient pas protégés contre les agissements de Satan. Aucun jugement et aucune prévoyance finie ne peuvent concevoir le soin que Dieu, par ses anges, a exercé sur les enfants des hommes dans leur voyage, dans leur propre maison, alors qu'ils mangeaient et buvaient. Où qu'ils soient, son œil est sur eux. Ils sont préservés de mille dangers, tous invisibles pour eux. Satan a tendu des pièges, mais le Seigneur est constamment à l'œuvre pour sauver son peuple. C'est pourtant le principe même que Dieu exprime dans les 10 commandements et c'est le principe que Jésus exprima aux responsables juifs, disant que leur maison leur serait laissée déserte. Ici, on voit à nouveau ce principe présenté comme principe général concernant les nations qui le rejettent. dans Review and Herald, 17 septembre 1901, au paragraphe 8. Dieu tient un compte des nations. Pas un seul moineau ne tombe à terre sans qu'il le remarque. Ceux qui font du mal à leurs semblables, en disant « Comment Dieu peut-il le savoir ?» seront un jour appelés à répondre à une vengeance longtemps différée. À notre époque, on fait preuve d'un mépris plus que commun à l'égard de Dieu. Les hommes ont atteint un point d'insolence et de désobéissance qui montre que leur coupe d'iniquité est presque pleine. Beaucoup ont presque dépassé les limites de la miséricorde. Bientôt, Dieu montrera qu'il est bien le Dieu vivant. Il dira aux anges « Ne combattez plus Satan dans ses efforts de destruction. Laissez-le exercer sa méchanceté sur les enfants de la désobéissance, car la coupe de leur iniquité est pleine. Ils ont progressé d'un degré de méchanceté à un autre, ajoutant chaque jour à leur mépris de la loi. Je n'interviendrai plus pour empêcher le destructeur d'accomplir son œuvre. » Fin de citation. Ainsi, lorsqu'Ellen White affirme ce qui se passera dans le proche futur, elle indique simplement que le principe universel de Dieu dans sa gestion de l'apostasie était sur le point d'avoir lieu. Ce n'était pas un événement unique. Cela est renforcé par ses affirmations universelles au sujet des anges de Dieu. Review and Herald du 10 mai 1906. Les anges sont envoyés depuis les cours célestes, non pour détruire, mais pour surveiller et garder les âmes en danger, pour sauver les perdus, pour ramener les égarés au bercail. Et signe des temps du 20 novembre 1893, au paragraphe 3, les anges ne viennent pas sur la terre pour dénoncer et détruire, pour gouverner et exiger des hommages, mais ils sont des messagers de la miséricorde pour coopérer avec le capitaine de l'armée du Seigneur, pour coopérer avec les agents humains qui iront chercher et sauver la brebis perdue. Il est ordonné aux anges de camper autour de ceux qui craignent et aiment Dieu. Fin de citation. Dieu soit remercié de ce qu'il n'envoie pas ses anges pour détruire. Il n'est pas un destructeur, mais il restaure. Dieu ne force personne. Pour permettre à chaque personne d'avoir la liberté de choisir et d'obtenir les fruits de ses propres décisions, Dieu ne peut pas forcer qui que ce soit, quel que soit le moment. Cette vérité est clairement affirmée dans la Bible et l'esprit de prophétie. Psaume 119, verset 109. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsqu'une personne est menacée de mort par celui qu'elle refuse de suivre, il ne s'agit pas là de liberté de choix. Si Dieu menace de brûler et de détruire ceux qui refusent de le suivre, il ne leur donne pas la liberté de choisir. Dans ce cas, il les forcerait à le choisir. Mais le gouvernement de Dieu n'est pas ainsi. Lisons dans Desire of Ages, page 22. L'exercice de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l'amour, et l'amour ne peut être commandé. Il ne peut être gagné par la force ou l'autorité. Ce n'est que par l'amour que l'on éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère doit être manifesté par contraste avec le caractère de Satan. Et Desire of Ages, page 759. La rébellion ne devait pas être vaincue par la force. Le pouvoir qui contraint ne se trouve que dans le gouvernement de Satan. Les principes du Seigneur ne sont pas de cet ordre. Son autorité repose sur la bonté, la miséricorde et l'amour. Et la présentation de ces principes est la seule option valable. Le gouvernement de Dieu est moral, et la vérité et l'amour doivent être la puissance dominante. Signs of the Times, 6 mai 1897. La force est le dernier recours de toute fausse religion. On ne peut commander l'amour. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Si Dieu menace les gens de mort, Dieu ne peut alors pas délivrer qui que ce soit de la peur. La mission du Christ. Avec ces pensées à l'esprit, j'aimerais vous présenter une collection de citations de l'esprit de prophétie qui révèle clairement la mission de Christ dans ce monde. Comme Jésus l'a dit, sa mission était de révéler la gloire du Père ou son caractère. Dans Jean 17, juste deux versets après celui où il affirmait être venu pour glorifier le Père, il dit cela, Jean 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Dieu proclama son nom à Moïse tel que cela est exprimé dans Exode 34, verset 5. Ici, Christ nous dit qu'il a non seulement proclamé, mais aussi manifesté le nom de son Père. Cela signifie qu'il nous montra le Père. Comme il le dit à Philippe dans Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Je vous demande de soigneusement considérer les citations suivantes pour savoir ce qu'était la mission de Christ dans ce monde. Signe des temps du 24 février 1909, au paragraphe 3. L'amour, l'honneur et la perfection révélés dans l'Évangile sont une révélation du caractère de Dieu à l'homme. La justice, la bonté et la bienveillance qu'on voyait dans le caractère de Christ doivent se retrouver dans les vies de ceux qui acceptent les privilèges de l'Évangile. Par une étude de la parole, nous sommes appelés à le voir tel qu'il est, et, charmés par la vue de sa perfection divine, il nous faut croître en la même image. Il nous faut comprendre que l'Évangile révèle pleinement la gloire du Seigneur. C'est le miroir qui révèle le caractère de Dieu à l'âme convertie. La ressemblance de Dieu est révélée dans le caractère parfait de son Fils, afin que nous puissions comprendre ce que ça signifie d'être créé à l'image de Dieu, et ce que nous pouvons devenir si, par une contemplation continuelle, nous nous permettons d'être changés de gloire en gloire. Signe des temps du 24 février 1909, paragraphe 3. L'Évangile est révélé dans les quatre premiers livres du Nouveau Testament. C'est dans ces livres que la gloire entière du Seigneur est révélée. C'est ce à quoi Paul se réfère ainsi, dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Christ dit à Philippe que s'il pouvait voir Christ, il pourrait voir l'image exacte du Père. Nous lisons dans Signs of the Times du 15 avril 1897 au paragraphe 10. En Christ, Dieu contempla le reflet de sa propre image. Dieu était manifesté dans la chair, étant donné l'entière identification de son caractère avec le caractère de Christ. C'était un sujet d'étonnement pour l'armée céleste que Dieu fût ainsi manifesté dans la chair. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Fin de citation. Il nous est dit que la manifestation de Christ dans la chair révélait pleinement le caractère de Dieu. L'identité entière de son caractère fut révélée pendant que Christ était ici sur la terre. Nous lisons dans Christ's Object Lessons, page 315. Dieu requiert la perfection de ses enfants. Sa loi est une transcription de son propre caractère. Elle est le modèle de tout caractère. Cette référence infinie est présentée à tous, afin qu'on ne se méprenne pas sur le genre de personne que Dieu acceptera pour constituer son royaume. La vie de Christ sur la terre était une expression parfaite de la loi de Dieu. Et lorsque ceux qui prétendent être des enfants de Dieu lui deviennent semblables en caractère, ils seront obéissants aux commandements de Dieu. Si la vie de Christ sur la terre était l'expression parfaite de la loi de Dieu, alors que dit d'autre l'esprit de prophétie concernant la loi de Dieu? Patriarchs and Prophets, page 52. La loi de Dieu est aussi sacrée que Dieu lui-même. C'est une révélation de sa volonté, une transcription de son caractère, l'expression de l'amour et de la sagesse divine. Si la vie de Christ sur la terre est une expression parfaite de la loi de Dieu, et que la loi est aussi sacrée que Dieu lui-même, étant la transcription de son caractère, alors Christ révéla parfaitement le caractère de Dieu. Avec cela à l'esprit, considérez cette citation inspirée de Manuscript 62, l'année 1886. Christ n'a jamais tué qui que ce soit. C'est exactement ce que nous dit la loi de Dieu dans Exode 20, verset 3. Tu ne tueras point. Suivons la logique. 1. La vie de Christ sur la terre était l'expression parfaite de la loi de Dieu. 2. Christ n'a jamais tué qui que ce soit. 3. La loi dit « Tu ne tueras point ». 4. C'est pourquoi Dieu ne tue pas qui que ce soit. C'est aussi simple que la Bible disant qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Le monde chrétien rend cette vérité simple très complexe, mais elle ne l'est pas. Elle est simple. Le monde chrétien rend également très complexe l'idée que Dieu tue les gens, alors que Christ ne l'a clairement pas fait, et qu'il est la révélation complète du Père. Nous lisons dans Signs of the Times du 11 avril 1895, au paragraphe 2. Ceux qui ont expérimenté la bénédiction de Dieu devraient être les personnes les plus reconnaissantes. Ils devraient faire monter vers Dieu des paroles de reconnaissance, parce que Christ est venu dans une chair semblable à la chair de péché, recouvrant sa divinité de l'humanité, afin de pouvoir présenter au monde la perfection de son propre caractère. Il vint pour représenter Dieu, non pas comme un juge sévère, mais comme un Père aimant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. C'est ici la grande vérité que Christ est venu révéler dans le monde. Satan avait tant faussé l'image du caractère de Dieu pour le monde que l'homme est resté distant de Dieu. Mais Christ vint pour manifester au monde les attributs du Père, afin de présenter l'image expresse de sa personne. J'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. L'objet de la mission de Christ pour le monde était de révéler le Père. Fin de citation. Christ est l'image expresse de la personne du Père, comme cela nous est dit dans Hébreux 1, verset 3. Ellen White dit que Christ vint dans le monde pour manifester les attributs du Père, comme étant l'image expresse de la personne de Dieu. Puis, la phrase de conclusion dans Signs of the Times du 11 avril 1895 au paragraphe 2, « L'objet de la mission de Christ pour le monde était de révéler le Père. » Cette affirmation est l'expression complète de Jean 17, verset 4. La mission de Christ était de révéler le Père. Remercions le Seigneur pour ses expressions claires. Nous lisons dans Signs of the Times du 20 janvier 1890, au paragraphe 9. Le Christ a exalté le caractère de Dieu en lui attribuant la louange et le mérite de toute la raison d'être de sa mission sur la terre, de rendre les hommes droits par la révélation de Dieu. En Christ furent présentées devant les hommes la grâce paternelle et les perfections incomparables du Père. Dans sa prière, juste avant sa crucifixion, il a déclaré « J'ai manifesté ton nom, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Lorsque l'objet de sa mission fut atteint, la révélation de Dieu au monde, le Fils de Dieu annonça que son œuvre était accomplie et que le caractère du Père avait été révélé aux hommes. Fin de citation. Une fois de plus, les choses sont claires concernant l'objet de la mission de Christ sur la terre. C'était pour redresser les hommes par une révélation de Dieu. Le développement d'Ellen White dans Jean 17, verset 4, explique très bien la mission de Christ. Signs of the Times, 20 janvier 1890, page 9. Lorsque l'objet de sa mission fut atteint, la révélation de Dieu au monde, le Fils de Dieu annonça que son œuvre était accomplie et que le caractère du Père avait été manifesté aux hommes. Comme il est merveilleux de savoir que la mission terrestre du Christ nous a montré comment est le Père, nous pouvons être certains que nous connaissons le Père par Jésus. Ainsi, le Christ est le chemin vers le Père, la vérité du Père et la vie du Père. Manuscrit 11 de l'année 1895, paragraphe 10. Ils doivent pratiquer les principes du ciel ici sur la terre s'ils veulent devenir membres de la famille royale dans le ciel. La vie du Christ dans notre monde devait fournir une représentation dans son propre caractère de l'excellence suprême du caractère de Dieu. Ses paroles devaient donner la vie, afin que par ses paroles et ses actions, ils puissent avoir une conception juste de son caractère. Les chrétiens ne doivent jamais oublier qu'ils doivent suivre Christ en toutes choses. Ces affirmations ne peuvent être mal comprises. Pourquoi les gens voudraient-ils dire que Christ ne vint que pour révéler la miséricorde de Dieu sur la terre, mais qu'il révélerait plus tard la justice de Dieu? Cela sape notre confiance dans les écrits inspirés de la Bible et de l'esprit de prophétie. Dans Desire of Ages, page 204, paragraphe 4, nous lisons. En dépit de leurs efforts pour contrecarrer son œuvre, le Christ gagnait, même à Jérusalem, une influence sur le peuple supérieure à la leur. Des multitudes qui n'étaient pas intéressées par les harangues des rabbins étaient attirées par son enseignement. Elles pouvaient comprendre ses paroles et leur cœur était réchauffé et réconforté. Il parlait de Dieu non pas comme d'un juge vengeur, mais comme d'un père tendre, et il révélait l'image de Dieu telle qu'elle se reflétait en lui-même. Ses paroles étaient comme un baume pour l'esprit blessé. Tant par ses paroles que par ses œuvres de miséricorde, il brisait le pouvoir oppressif des vieilles traditions et des commandements faits par l'homme et présentait l'amour de Dieu dans sa plénitude inépuisable. Fin de citation. Comme c'est bien exprimé, le Christ refléta le caractère du Père lorsqu'il était ici sur la terre. C'était une représentation parfaite. Lisons dans Signs of the Times du 21 mars 1900, paragraphes 13 à 15. Il en a été ainsi et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Le péché est la tribu de Satan et il se ligue toujours contre le bien. L'esprit de Caïn se manifeste dans toute fausse religion. L'œuvre de Satan est de condamner et détruire, de ravir la liberté de l'homme et de détruire sa vie. La transgression conduit toujours les hommes à agir en agents de Satan pour mettre en œuvre ses objectifs contre Dieu et la justice. À Nazareth, Christ annonça que son œuvre était de restaurer et d'élever, afin d'apporter la paix et le bonheur. Il vint dans ce monde pour représenter le Père, et il révéla sa puissance divine en rendant la vie aux morts, en rétablissant les malades et les souffrants à l'intelligence et la santé. Il était dans ce monde comme l'arbre de la vie. Satan est en guerre contre Christ, le divin restaurateur. Ces agents sont ligués contre l'œuvre du Sauveur consistant à élever et ennoblir l'homme. La première mort dans notre monde fut causée par la mise en œuvre des principes de Satan. Et depuis cette époque, Christ et ses disciples ont été les objets de sa haine maligne. Fin citation. Le contraste dans la citation est clair. L'œuvre de Satan est de condamner et de détruire, de ravir la liberté et de détruire la vie. L'œuvre de Christ est de restaurer, d'élever et d'apporter la paix. Quel contraste merveilleux! En accomplissant cette œuvre, Christ a révélé le Père. Je ressens une grande joie en lisant ces citations. J'espère qu'il en est de même pour vous. Signs of the Times, 9 juin 1890, paragraphe 1. Par Jésus, le Fils de Dieu, le Père est plus pleinement révélé au monde. Jésus a dit à ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Aujourd'hui, des milliers d'âmes s'exclament, « Montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Nous ne pouvons pas nous réclamer de Dieu comme de notre Père jusqu'à ce que nous le voyions. » Jésus dit à toute âme, comme il a dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. As-tu vu mes œuvres? As-tu entendu mes enseignements? As-tu observé les miracles que j'ai accomplis au nom de mon Père? Et n'as-tu cependant pas compris la nature de Dieu? J'ai prié avec vous et pour vous, et vous ne pouvez toujours pas comprendre que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que je vous ai révélé le caractère de mon Père dans ma vie. Je suis l'éclat de la gloire de mon Père. Je suis l'image expresse de sa personne. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Fin de citation. N'est-ce pas intéressant? Le même problème qu'avait Philippe existe encore aujourd'hui. Il ne pouvait pas voir que Christ était l'entière représentation du Père. Le monde chrétien presque entier souffre du même aveuglement. Merci Seigneur Jésus de nous avoir montré le Père lorsque tu es venu dans ce monde. Signs of the Times, 18 novembre 1889, paragraphe 6. Christ est venu dans notre monde pour être notre sacrifice. Il est venu pour découvrir à nos yeux les trésors de la vérité, pour les placer dans un nouveau contexte, la structure de la vérité. Il sortait des choses anciennes et nouvelles de la maison du trésor de Dieu pour nous permettre de comprendre les maillons du grand plan du salut. Par les offrandes sacrificielles de la dispensation juive, le Christ nous est indiqué, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Christ vint, c'était pour s'engager sur cette terre dans le conflit avec l'ennemi de Dieu et de l'homme, à la vue de l'univers et du ciel. Mais pourquoi était-ce nécessaire de faire la guerre à la vue des autres mondes? C'était parce que Satan avait été un ange exalté. Et lorsqu'il tomba, il entraîna de nombreux anges à le joindre dans sa révolte contre le gouvernement de Dieu. Il œuvra dans l'esprit des anges comme il œuvre aujourd'hui dans les pensées des hommes. Il prétendait être loyal à Dieu, tout en argumentant que les anges ne devaient obéir à aucune loi. Il inculquait ses idées, sa rébellion, son inimitié et sa haine de la loi de Dieu qui, par son influence, était issue des pensées des anges dans le ciel. Il provoqua la chute de l'homme par les mêmes tentations par lesquelles il avait causé la chute des anges, et dans le monde où il s'était proposé de mettre en œuvre ses principes de rébellion, la bataille devait être livrée, afin que tous puissent voir la véritable nature et les résultats de la désobéissance à la grande norme morale de Dieu. Il représenta Dieu dans une fausse lumière, le revêtant de ses propres attributs. Christ vint pour représenter le Père dans son vrai caractère. Il montra qu'il n'était pas un juge arbitraire, prêt à répandre ses jugements sur les hommes, et se délectant à les condamner et à les punir pour leurs mauvaises actions. Le Seigneur proclama son caractère à Moïse sur la montagne. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Quelle sublime révélation du Père! Ellen White fait un beau résumé de la raison pour laquelle Jésus dut venir sur la terre. Satan en avait trompé beaucoup dans le ciel au sujet du caractère de Dieu, ainsi que l'ensemble de la race humaine. Christ révéla la lumière de qui est Dieu. Ce fut ici la description que Dieu donna de son propre caractère. Jésus vint pour représenter la bonté, la miséricorde et l'amour du Père, et Satan fut rempli d'inimitié envers le Fils de Dieu, et s'efforça dès sa naissance de le détruire. Il œuvra par le méchant Hérode pour accomplir son dessein, mais le Seigneur préserva la vie du jeune enfant Jésus et détourna le dessein du méchant. La vie de Christ était sans cesse en péril. Souvent, même après avoir écouté ses paroles de grâce et vu la manifestation de sa puissance en guérissant les malades et en bénissant ceux qui l'entouraient, ils étaient prêts à le détruire. Il détestait le péché d'une parfaite haine. C'était la vie pure et sans tache de Jésus qui excita la haine de Satan et d'une nation dévoyée. Car Christ ne pécha pas, et aucun mensonge ne fut trouvé dans sa bouche. La nation juive fut remplie de doutes et de préjugés, ce qui la conduit à haïr le Fils de Dieu. Leur incrédulité les plaça du côté de l'ennemi, sous le contrôle du méchant. Signe des temps, 18 novembre 1889, au paragraphe 7. Dans Counsels to Teachers, page 28, paragraphe 1 et 2, nous lisons « Le ciel, baissant les yeux et voyant les égarements dans lesquels les hommes étaient entraînés, savait qu'un destructeur divin devait venir sur la terre. Par les fausses représentations de l'ennemi, beaucoup furent trompés au point d'adorer un faux Dieu, revêtu des attributs du caractère de Satan. Ceux qui sont dans l'ignorance et les ténèbres morales doivent avoir la lumière spirituelle, car le monde n'a pas connu Dieu et il faut qu'il soit révélé à leur intelligence. La vérité a regardé du haut du ciel et n'a pas vu le reflet de son image, car d'épais nuages de ténèbres et d'obscurité spirituelle enveloppaient le monde. Le Seigneur Jésus seul était capable de repousser les nuages, car il est la lumière du monde. Par sa présence, il pouvait dissiper l'ombre lugubre que Satan avait projetée entre l'homme et Dieu. Le Fils de Dieu vint sur cette terre pour révéler aux hommes le caractère du Père, afin qu'ils apprennent à l'adorer en esprit et en vérité. Il vint pour ensemencer le monde de vérité. Il détenait les clés de tous les trésors de vérité et était capable d'ouvrir des portes à la science et de révéler des trésors de vérité encore cachés, essentiels au salut. Chaque niveau de vérité était évident pour celui qui est la lumière éclairant tout homme qui entre dans le monde. Et signe des temps, 27 juin 1895, au paragraphe 7. Dans la pureté de sa vie, il avait révélé le Père et la gloire de Dieu avait rayonné de son caractère. La perfection du Père s'était manifestée devant les mondes déchus et non déchus, devant les intelligences célestes et devant les hommes pécheurs. Dans l'œuvre médiatrice du Christ, l'amour de Dieu a été révélé dans sa perfection aux hommes et aux anges. Après avoir surmonté la tentation et supporté l'épreuve dans le désert, après avoir vaincu en autre nom, il oriente ses pas vers le calvaire. Dans la perfection de l'humanité, il saisit le monde et dans la plénitude de sa divinité, il se saisit du trône de Dieu et proclame le résultat de son terrible conflit avec l'ennemi, s'exclamant « Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Maintenant, le dernier ennemi est détruit. » Et finalement, dans 8 témoignages, page 286, tout ce que l'homme doit savoir ou peut savoir de Dieu a été révélé dans la vie et le caractère de son Fils. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a révélé. Jean 1, verset 18. Prenant sur lui l'humanité, le Christ est venu pour être un avec l'humanité et en même temps pour révéler notre Père céleste aux êtres humains pécheurs. Il a été en toute chose rendu semblable à ses frères. Il a été fait chair, comme nous le sommes. Il avait faim, il avait soif et il était fatigué. Il a été nourri par la nourriture et rafraîchi par le sommeil. Il a partagé le sort des hommes et pourtant il était le Fils de Dieu sans reproche. Il était un étranger et un habitant de la terre. Dans le monde, mais pas du monde, tenté et éprouvé comme les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont tentés et éprouvés, mais vivant une vie sans péché. Tendre, compatissant, sympathique, toujours attentif aux autres, il représentait le caractère de Dieu et était constamment engagé dans le service de Dieu et des hommes. Fin de citation. Quelle mesure du caractère de Dieu fut révélée dans le Fils? Nous lisons dans Signs of the Times, au 30 décembre 1889, paragraphe 6. Tout le caractère de Dieu a été révélé dans son Fils. Tout l'éventail des possibilités du ciel est exposé à l'acceptation de l'homme dans le Fils de l'être infini. Le chemin du retour de l'homme à Dieu et au ciel ne comporte aucune barrière. Les profondeurs inégalables de l'amour du Sauveur ont été démontrées, et si cette manifestation de l'amour de Dieu pour les enfants des hommes ne prévaut pas pour attirer les hommes à lui, rien ne le fera jamais. Dans 14 Manuscript Releases, page 220, nous lisons « L'unité du Christ avec le Père était un sujet de joie constante pour Dieu, car il savait qu'il y avait dans le monde quelqu'un qui ne le dénaturerait pas. Il voyait dans le Christ le reflet de son propre caractère, et le grand désir du Christ était que ses disciples puissent avoir cette même unité. Il pria pour cette unité. » Jean 17, verset 17 à 21 a été cité. Dans Signs of the Times, au 15 avril 1897, paragraphe 10, nous lisons « En Christ, Dieu contempla le reflet de sa propre image. Dieu était manifesté dans la chair par l'identification totale de son caractère avec celui du Christ. Le fait que Dieu se soit ainsi manifesté dans la chair était une merveille pour l'armée céleste. » le mystère qui a été caché depuis des siècles et des générations. Et dans Review and Herald, au 15 février 1898, nous lisons « Dieu n'a rien laissé inachevé de ce qu'il pouvait faire pour nous. Il a donné un exemple parfait de son caractère dans le caractère de son Fils, et c'est l'œuvre des disciples du Christ, alors qu'ils contemplent l'excellence incomparable de sa vie et de son caractère, de grandir à sa ressemblance. En regardant vers Jésus et en répondant à son amour, ils refléteront l'image du Christ. » Dans Bible Training School, 1er octobre 1902, lisons « Satan accusa Dieu de posséder ses propres attributs. Le Christ est venu dans ce monde pour révéler le caractère de Dieu tel qu'il est réellement. Il est la représentation parfaite du Père. Sa vie sans péché, vécue sur cette terre dans la nature humaine, est une réfutation complète de l'accusation de Satan contre le caractère de Dieu. » Et dans Manuscript 65, année 1894, « Le Christ est notre modèle, l'exemple parfait et saint qu'il nous a été donné de suivre. » Desire of Ages, page 664, Jean 14, verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Le Christ seul pouvait représenter le Père à l'humanité. Et cette représentation, les disciples avaient eu le privilège de la contempler pendant plus de 3 ans. Dans Counsels to Educators, page 74, paragraphe 1, nous lisons « L'enseignant, qui n'est non moins que le Fils de Dieu, est venu sur terre pour révéler aux hommes le caractère du Père, afin qu'ils puissent l'adorer en esprit et en vérité. Le Christ a révélé aux hommes que l'adhésion la plus stricte à la cérémonie et à la forme ne les sauverait pas, car le royaume de Dieu est de nature spirituelle. Le Christ est venu dans le monde pour y semer la vérité. Il détenait les clés de tous les trésors de la sagesse. Il était capable d'ouvrir les portes de la science et de révéler des trésors de connaissances encore cachés, essentiels au salut. Il présentait aux hommes le contraire exact des représentations de l'ennemi sur le caractère de Dieu et cherchait à leur faire comprendre l'amour paternel du Père, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Il insista sur la nécessité de la prière, du repentir, de la confession et de l'abandon du péché. Il leur enseignait l'honnêteté, la tolérance, la miséricorde et la compassion, leur enjoignant d'aimer non seulement ceux qui les aimaient, mais aussi ceux qui les haïssaient et qui les traitaient avec mépris. En cela, il leur révélait le caractère du Père, qui est longanimité, miséricorde et grâce, lent à la colère, plein de bonté et de vérité. Ceux qui acceptaient son enseignement étaient sous la garde des anges, qui avaient pour mission de fortifier, d'éclairer, afin que la vérité renouvelle et sanctifie l'âme. Dans Essai à la page 11 et 12, nous lisons. En décrivant sa mission terrestre, Jésus a dit « Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Luc 4, verset 18. Telle était son œuvre. Il allait et venait en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par Satan. On trouvait des villages entiers où le gémissement des malades ne se faisait entendre dans aucune demeure, car il y était entré et avait guéri tous les malades. Son œuvre donnait la preuve de son onction divine. L'amour, la miséricorde et la compassion furent révélés dans chaque acte de sa vie. Son cœur s'est ouvert aux enfants des hommes dans une tendre sympathie. Il a pris la nature de l'homme afin de pouvoir répondre aux besoins de l'homme. Les plus pauvres et les plus humbles n'avaient pas peur de s'approcher de lui. Même les petits-enfants étaient attirés par lui. Ils aimaient grimper sur ses genoux et contempler son visage pensif et plein d'amour. Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec amour. Il faisait preuve du plus grand tact et d'une attention prévenante et bienveillante dans ses rapports avec autrui. Il n'a jamais été impoli, n'a jamais prononcé inutilement une parole sévère et n'a jamais fait souffrir inutilement une âme sensible. Il n'a pas censuré la faiblesse humaine. Il a dit la vérité, mais toujours avec amour. Il a dénoncé l'hypocrisie, l'incrédulité et l'iniquité, mais c'est avec des larmes dans sa voix qu'il prononçait ses réprimandes les plus sévères. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, qui a refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité et la vie. Il l'avait rejeté, lui, le Sauveur, mais il les considérait avec une tendresse pleine de pitié. Sa vie fut une vie d'abnégation et d'attention pour les autres. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Il s'est toujours comporté avec une dignité divine, mais il s'est incliné avec la plus grande tendresse devant chaque membre de la famille de Dieu. Il voyait dans tous les hommes des âmes déchues qu'il avait pour mission de sauver. Tel est le caractère du Christ révélé dans sa vie. Tel est le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que jaillissent vers les enfants des hommes les courants de la compassion divine manifestée en Christ. Jésus, le Sauveur tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Le Christ vint dans ce monde et revêtit sa divinité d'humanité, prenant sur lui la nature humaine. Il vint pour passer par les expériences de l'humanité, fouler le sol sur lequel Adam était tombé, racheter son échec et pour rencontrer et vaincre l'adversaire de Dieu et de l'homme, afin que, par sa grâce, l'homme puisse être vainqueur et finalement avoir une place avec lui sur son trône. Il foula le champ de bataille, et c'est sur ce monde minuscule que devait se dérouler la controverse entre le Christ, le prince de la vie, et Satan, le prince des ténèbres. Par la transgression, l'homme était devenu l'enfant du mal, le captif de Satan, l'ennemi de Dieu. Satan avait déformé le caractère de Dieu, et l'homme, qui avait été créé à l'image divine, douta de l'amour de son Père céleste, se méfia de sa parole et se positionna dans une incrédulité et une rébellion obstinée contre ses exigences. Christ vint pour représenter le caractère de son Père, pour ramener l'homme à son allégeance à Dieu, pour réconcilier l'homme à Dieu. Il se proposa de rencontrer l'ennemi et de démasquer ses stratagèmes, afin que l'homme puisse choisir celui qu'il servirait. Satan avait été Lucifer, le porte-lumière, celui qui avait partagé la gloire de Dieu dans le ciel, et avait été juste après Jésus en puissance et en majesté. Dans les termes inspirés, il est décrit comme celui qui mettait le sceau à la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Mais Lucifer avait perverti la beauté et la puissance dont il avait été revêtu par le Créateur, et sa lumière s'était transformée en ténèbres. Lorsqu'il fut chassé du ciel par sa rébellion, il se détermina à faire de l'homme sa victime, et de la terre son royaume. Il rejeta le blâme de sa rébellion sur Christ, et par sa haine déterminée de Dieu, chercha à le blesser par la chute de l'homme. Dans la joie et la paix du ciel, il contemplait une vision de la félicité à toujours perdue, et se détermina à exciter dans les cœurs des créatures de Dieu la même amertume qu'il ressentait lui-même, afin de changer leur chant de louange et de reconnaissance en reproche contre leur Créateur. C'était Bible Echo au 1er novembre 1892, paragraphes 2 et 3. Nous lisons dans Christian Educator, 1er octobre 1898, au paragraphe 9. Le grand médecin coopère avec tous les efforts déployés en faveur de l'humanité souffrante, pour donner la lumière au corps, la vie et la restauration à l'âme. Et pourquoi cela? Satan est venu dans notre monde et a entraîné les hommes dans la tentation. Le péché a entraîné la maladie et la souffrance, car nous récoltons ce que nous semons. Satan a ensuite amené l'homme à imputer à Dieu la souffrance qui n'est autre que la surconséquence de la transgression de la loi physique. Dieu est ainsi faussement accusé et son caractère déformé. Il est accusé de faire ce que Satan lui-même a fait. Dieu voudrait que son peuple démasque ses mensonges de l'ennemi. Il leur a donné la lumière de l'évangile, de la santé, et en tant que ses représentants, ils doivent donner cette lumière aux autres. Dans HM 1er septembre 1892, paragraphe 6, le ciel tout entier s'intéresse au salut de l'homme. L'œuvre peut être accomplie rapidement. Le royaume de Dieu peut venir et la terre être remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux couvrent la mer. Le grand désir des intelligences célestes est que le caractère de Dieu, si longtemps dénaturé et mal interprété, soit correctement représenté devant ceux qui ont été trompés par les artifices de l'ennemi. Satan a imputé à Dieu ses propres attributs. Et n'est-il pas temps à présent que le nom du Christ soit élevé parmi les païens? Dieu demande à ceux qui ont été éclairés de serrer les rangs et de commencer une guerre agressive contre les forteresses du malin. Messager, 7 juin 1893, paragraphe 2. Le seul espoir pour la race déchue était de se réconcilier avec Dieu. Satan avait tellement déformé l'image de Dieu que l'homme n'avait pas de véritable conception du caractère divin. Le Christ est venu dans le monde et, en exécutant le plan du salut, a révélé à l'homme que Dieu est amour. Review and Herald, 30 avril 1889, paragraphe 8. Le Christ est venu pour représenter le Père auprès de l'homme. Il a révélé la nature de Dieu au monde. Satan avait mal représenté le Père. Il l'avait dépeint comme un être plein de vengeance, qui n'avait aucune indulgence, aucune miséricorde, aucune patience, aucun amour. Il l'a revêtu de ses propres attributs, mais le Christ est venu et a pris sur lui l'humanité, afin de révéler à l'humanité le véritable caractère du Père. Et nous devons représenter le Christ au monde comme le Christ a représenté le Père. Dans Signs of the Times, 15 avril 1889, paragraphe 6, nous lisons « Satan a déformé le caractère de Dieu. Il l'a revêtu de ses propres attributs. Il l'a représenté comme un être d'une sévérité inflexible. Il a empêché le monde de voir le véritable caractère de Dieu en plaçant son ombre entre les hommes et le divin. Le Christ est venu dans notre monde pour enlever cette ombre. Il est venu pour représenter le Père. Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a prié pour que ses disciples soient un avec lui comme il est un avec le Père. Les hommes ont déclaré que cette unité avec le Christ était impossible, mais le Christ l'a rendue possible en nous mettant en harmonie avec lui-même, par les mérites de sa vie et de son sacrifice. Pourquoi devrions-nous douter de l'amour et de la puissance de Dieu? Pourquoi ne nous placerions-nous pas du côté de la foi? Admirez-vous les charmes et les attraits de Jésus? Alors, cherchez à suivre ses traces. Il est venu pour révéler le Père au monde et il nous a confié la tâche de représenter son amour, sa pureté, sa bonté, sa tendre sympathie aux enfants des hommes. » Dans Signs of the Times, au 30 septembre 1889, paragraphe 7, nous lisons « Jésus est venu sur cette terre pour représenter le caractère du Père au monde. Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Satan avait déformé le caractère de Dieu et l'avait placé sous un faux jour. Mais Jésus est venu pour révéler l'amour et la compassion du Père envers les enfants déchus des hommes. Lorsque ceux qui professent être les serviteurs de Dieu ont le visage sombre et ne cessent de se plaindre, ils donnent une fausse image de leur Père céleste. Ils confirment l'impression que Satan a faite concernant son caractère. Ils disent au monde « Le service de Dieu est un service difficile. C'est un esclavage que de garder la loi de Dieu. » Tout cela est faux. Qu'est-ce qui met les menottes au poignet des hommes? Est-ce l'obéissance à la loi? Non, en effet. Ceux qui observent les lois marchent librement. C'est le transgresseur qui est en esclavage. La malédiction de la loi n'est pas sur ceux qui s'efforcent d'accomplir les saints préceptes de Dieu par la foi dans le Rédempteur. Ils sont couverts de sa justice. Ils sont en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Signs of the Times, au 25 novembre 1889, paragraphe 1, nous lisons « Jésus était chassé de lieu en lieu pendant son ministère. Les prêtres et les dirigeants le suivaient constamment. Ils ont dénaturé sa mission et son œuvre. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les anges ont surveillé chaque étape du conflit. Ils ont vu l'esprit et l'œuvre de l'ennemi. Ils regardaient avec étonnement les manœuvres de Satan contre le divin Fils de Dieu. Ils ont vu que celui qui n'avait été que le second de Jésus, en puissance et en gloire, était tombé si bas qu'il pouvait influencer les hommes à traquer les pas du Christ de ville en ville. Lorsque le Christ a cherché le jardin de Gethsémané, l'ennemi a fait régner les ténèbres sur son âme. Même ses disciples n'ont pas veillé avec lui pendant cette heure d'épreuve. Ils entendirent l'agonie de la prière qui sortait de ses lèvres pâles et tremblantes, mais ils se laissèrent bientôt gagner par le sommeil et laissèrent leur maître souffrant lutter seul avec les puissances des ténèbres. Nous lisons dans Review and Herald au 9 mars 1897, paragraphe 10. Si les hommes ne connaissent pas Dieu tel que le Christ l'a révélé, ils ne se formeront jamais un caractère selon la similitude divine et ne verront donc jamais Dieu. Les anges du ciel s'étonnent de ce que ceux qui ont connu Dieu deviennent négligents, laissent leur esprit s'absorber dans des occupations temporelles et détournent leur attention du Dieu du ciel, au point d'oublier volontairement leur Créateur et de lui substituer d'autres seigneurs et d'autres dieux. Le jour est venu où il y a beaucoup de seigneurs et beaucoup de dieux, et Satan a voulu s'interposer entre Dieu et l'âme humaine, afin que les hommes ne rendent pas hommage à Dieu en observant sa loi. Satan s'est enveloppé de vêtements d'une clarté angélique, et il vient aux hommes en ange de lumière. Il amène l'âme coupable à voir les choses d'une manière pervertie, de sorte qu'elle déteste ce qu'elle devrait aimer et aime ce qu'elle devrait haïr et mépriser. Dieu lui est si mal représenté qu'elle ne se soucie pas de conserver la connaissance du Père vrai et vivant, mais se tourne vers le culte des faux dieux. Elle ne sait pas que l'amour de Dieu est sans autre pareil. Mais Christ a révélé cet amour à un monde déchu. Jean appelle le monde à contempler l'amour merveilleux de Dieu en disant « Voici quel amour nous a témoigné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Signs of the Times, 18 mai 1891, paragraphe 2. Satan avait déformé le caractère de Dieu pour le monde et avait entraîné l'homme à la rébellion. Mais Jésus est venu pour rendre manifeste dans sa propre vie et son caractère ce qu'était la vraie nature du Père. Partout où il est allé, il a révélé le Père comme un Dieu d'amour infini et d'une compassion sans bornes. Nous lisons dans Signs of the Times, le 11 décembre 1893, au paragraphe 8. Dans la personne et l'œuvre du Christ, la sainteté de Dieu est révélée, car le Christ est venu pour révéler le Père. Satan avait jeté son ombre sur le chemin de l'humanité et déformé le caractère de Dieu. La controverse de Satan ne s'est pas terminée lorsqu'il a été expulsé des cours célestes. Il a haï le Christ pour sa position dans le royaume de Dieu, et l'a haï encore plus lorsqu'il a lui-même été détrôné. Il l'a haï quand il est venu dans un monde en ruine, pour faire preuve de miséricorde et manifester sa compassion envers une race de pécheurs. Par l'intermédiaire des chefs des prêtres et des pharisiens, la haine de Satan s'est manifestée envers l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Fin de citation. La mission du Christ dans le monde révèle ce que le Père aurait fait dans toutes les situations d'urgence. La plus grande urgence à laquelle l'univers a été confronté est la grande controverse. En Jésus-Christ est révélé ce que le Père fait maintenant. H.M. 1er octobre 1897, paragraphe 7. L'œuvre du bon samaritain représente la mission du Christ dans le monde. Notre Sauveur est venu pour révéler le caractère de Dieu, pour représenter son amour pour l'homme. Il a exactement agi comme le Père l'aurait fait dans toutes les situations d'urgence. Le Christ a manifesté pour nous un amour que l'amour de l'homme ne pourra jamais égaler. Il est mort pour sauver ceux qui étaient ses ennemis. Il a prié pour ses meurtriers. Lorsque nous étions meurtris et mourants, il eut pitié de nous. Il n'est pas venu vers nous pour nous laisser périr, sans défense et sans espoir. Il n'est pas resté dans sa sainte et heureuse demeure où il était honoré par toute l'armée céleste qui aimait à exécuter ses ordres. Il a vu notre grand besoin. Il a pris notre situation en main et a identifié ses intérêts avec l'humanité. Il s'est fait homme de douleur et habitué à la souffrance. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Christ est le restaurateur divin qui n'utilise jamais la force. Review and Herald, 18 août 1896, au paragraphe 3. La prophétie a clairement indiqué la nature du royaume du Christ. Il a prévu un gouvernement qui n'utilisera pas la force et où ses sujets ne connaîtront pas l'oppression. Les symboles des gouvernements terrestres sont des bêtes sauvages, mais dans le royaume du Christ, les hommes sont appelés à voir, non pas une bête féroce, mais l'agneau de Dieu. Il n'est pas venu comme un tyran féroce, mais comme le Fils de l'homme, non pour conquérir les nations par sa puissance de fer, mais pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est venu comme le divin restaurateur, apportant à l'humanité opprimée et oppressée la riche et abondante grâce du